auditeurs, auditrices, bonjour. Pour cette nouvelle émission La Méridienne, je vous propose un extrait d'une tribune publiée le 19 juin 2020 sur Libération.fr par Claude Garcera, qui était alors président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Je cite « Tout le monde s'accorde pour reconnaître que les jeunes seront les premières victimes de l'impact économique et social de la crise sanitaire, ainsi qu'en témoigne déjà leur forte présence dans les associations d'aide alimentaire. Arrêt de CDD, mise au chômage, blocage des missions d'intérim ou saisonnières, report des stages, baisse probable de l'apprentissage. La plupart se retrouvent aujourd'hui sans perspective et surtout sans ressources. Au-delà de quelques mesures d'urgence, un « plan global pour les jeunes » annoncé par le gouvernement est attendu avec hâte par les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire comme l'UNAGE, qui déplore depuis trop longtemps la multiplicité des dispositifs ponctuels, ciblés et finalement trop fractionnés pour apporter une réponse efficace aux attentes et aux besoins des jeunes. Notre société accepterait-elle de laisser ses aînés sans moyens d'existence ? Doit-on continuer de l'accepter pour les jeunes ? L'heure est venue de mettre en place une politique jeunesse transversale et universaliste qui repose sur un modèle de répartition conjuguant équité générationnelle et justice sociale et qui crée des conditions permettant à chacun de se réaliser. C'était un extrait de la tribune publiée le 19 juin 2020 sur Libération.fr par Claude Garcera, qui était alors président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, l'UNAGE. L'UNAGE se décline en plusieurs URAGE, associations régionales, et à Tours, l'association Jeunesse et Habitat est signataire de la charte de l'UNAGE. Créée en 1945 à l'initiative de Jeanne Tourangeau, l'association Jeunesse et Habitat facilite la mobilité des jeunes et contribue à leur autonomie par une offre de logement et de restauration adaptée aux 18-30 ans. L'association Jeunesse et Habitat se reconnaît dans les valeurs de l'éducation populaire et fonde son action sur des principes de mixité sociale et générationnelle et de promotion des jeunes accueillis. Je me rends au 16 rue Bernard Palissy, non loin de la gare de Tours, sur l'un des sites gérés par l'AJH, le site Henri Fontaine. On y trouve une offre de logement pour les 16-30 ans et un restaurant ouvert aux adhérents depuis 1945 avec une cuisine maison. Le restaurant a d'ailleurs été entièrement rénové et s'appelle désormais chez Monsieur Henri.
Bonjour. Alors donc je me prénomme Caroline Jovenot, je suis directrice générale de l'association Jeunesse et Habitat. Alors c'est une association dont la spécialisation, on va dire, est dans l'accompagnement des publics jeunes 16 à 30 ans. Et nous, notre levier pour travailler avec eux sur toutes les questions d'autonomie, c'est le logement. Donc on a un parc de logements qui leur est dédié, qu'on gère, et puis on a un certain nombre d'actions ou d'autres dispositifs qui sont là aussi pour les accompagner dans leur, on va dire, dans leur prise d'autonomie et dans leur intégration dans la société.
Alors le logement pour les jeunes, donc évidemment parmi nos auditeurs, certains vont se dire « Ah bon, mais il n'y a pas que les résidences du CROUS ». Et donc là, peut-être de préciser que votre public est peut-être un petit peu différent. C'est pas que les étudiants, peut-être, c'est les apprenants.
Alors, c'est ça, en fait, on s'adresse à tous les jeunes. Notre public, c'est vraiment le public 16-30 ans. Donc, parmi ceux-là, il y a les étudiants, les apprenants, de manière générale, les apprentis, on les a également. Mais on a finalement tous les jeunes. Après, voilà, ça dépend un peu des dispositifs qu'on peut gérer. Mais on a des résidences, somme toute assez classiques, avec un certain nombre de jeunes étudiants ou apprentis qui y sont logés. Donc, on s'adresse aussi à eux. Et puis, on a un dispositif un peu particulier, mais qui est, me semble-t-il, assez intéressant à faire valoir, c'est qu'on gère aussi un service logement jeune, c'est-à-dire qu'on a des conseillères habitat dont le métier, c'est d'accompagner les jeunes dans leur recherche de logement. On sait que quand on a entre 16 et 30 ans, des fois la recherche d'un logement, c'est pas facile, on sait pas trop comment s'y prendre et surtout faut pas se planter. Et donc notre rôle, c'est justement de travailler avec les jeunes sur leurs projets, de nous assurer qu'ils sont plutôt sur les bons choix, de nous adapter à leurs besoins, à leurs ressources. On a vraiment un travail en équipe qui se crée ça avec eux. Et on accompagne à peu près 1000 jeunes par an, dont finalement assez peu d'étudiants. Je pense qu'on est assez peu repérés par les étudiants ou les apprentis ou les apprenants de manière générale. On a quoi 10-12% de scolaires et d'étudiants qui viennent nous voir, alors qu'en fait, on a des solutions à leur proposer. Et en tout cas, à travailler avec eux sur leur projet.
Alors ça peut être quoi le projet si je veux, disons, quitter mes parents et donc je cherche un loyer en adéquation avec mes moyens, ou alors j'ai pas de garant?
C'est tout ça. On est vraiment sur un accueil inconditionnel. Donc c'est vrai que seule la tranche d'âge compte. On est il y a que le fait qu'ils aient entre 16 et 30 ans qui leur permet d'accéder à notre association. Et c'est toutes ces questions-là. C'est-à-dire que ça peut être juste la demande d'info. Le jeune qui en effet sait pas trop comment s'y prendre. Il a une question en effet autour de la garantie, où il sait pas trop l'adéquation entre ses ressources et puis un loyer potentiel. Enfin voilà. Il vient nous voir, et puis des fois c'est juste un entretien, un échange avec une conseillère habitat. Et puis des fois, il y a des jeunes qui sont vraiment sur des logiques, qui ont besoin d'être plus accompagnés, qui ont besoin d'avoir plus de guidance, on va dire, dans leur recherche. Et là, on peut des fois avoir des accompagnements qui sont un peu plus dans la durée. Mais ça, peu importe, en fait, on s'adapte à leurs besoins. Et on a des jeunes qui viennent juste nous voir pour une simple demande d'info, ou des fois pour être accompagnés plus sur la durée.
C'est-à-dire quoi, par exemple, demander à être accompagné pour visiter, pour être sûr qu'on
peut aller jusque-là.
On se trouve pas dans une passoire thermique.
C'est ça, exactement. Ça, on peut aller jusque-là. On peut avoir un jeune des fois qui nous appelle aussi en disant moi j'ai vu cette annonce-là, mais je suis pas trop sûr de mon coup. Je comprends pas je sais pas la décrypter non plus. Quand on commence à parler toute charge comprise ou pas. Enfin, il y a tout. Qu'est-ce qui est compris dans les charges? On a tous ces éléments-là. Faire une simulation d'APL aussi, c'est pas si simple. Donc, il y a tout ce travail-là qui peut être fait, tout le volet administratif en fait. Et puis, on peut aller juste, en effet, sur même de la médiation. Par exemple, un jeune qui serait un peu en difficulté avec son propriétaire pourrait venir tout à fait nous rencontrer, nous expliquer un peu sa situation, puis nous on peut faire un peu de médiation. Et on peut aller jusqu'à l'accompagner sur un état des lieux si en effet il y en a besoin, et s'il a besoin d'être rassuré là-dessus, ou d'aller visiter un logement parce qu'en effet il est pas sûr de son coup. C'est tout à fait possible. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille pas mal avec le parc social, les bailleurs sociaux, mais on travaille aussi avec le parc privé. On peut avoir par contre des bailleurs qui nous contactent pour nous dire j'ai entendu parler de votre association, moi j'ai éventuellement un logement disponible, est-ce que ça pourrait intéresser un jeune que vous accompagnez? Donc ça, on est les propriétaires qui viennent vers nous pour ça.
Alors on peut peut-être dire aussi que vous inscrivez dans un réseau national.
Oui, tout à fait. On a un réseau. En fait, notre réseau d'appartenance, c'est le réseau Habitat Jeune. Donc, on a une union nationale qui s'appelle l'UNAGE, Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes, qui elle-même se décline en URAGE, Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes. Donc nous, en l'occurrence, on est adhérent à l'Union Régionale Centre-Val de Loire. Et en effet, c'est un réseau qui se préoccupe de toutes les questions de logement des jeunes, de manière générale. Un peu ce que je viens de décrire, c'est-à-dire certaines structures portent de l'accompagnement comme ça à la recherche de logement, gèrent des résidences, gèrent des fois des dispositifs un peu plus particuliers. Mais dans tous les cas, on est sur le travail autour du logement, de l'habitat, le fait de réussir aussi à faire en sorte que les jeunes deviennent des citoyens à part entière, de pouvoir éclairer leurs décisions. On a tout ce côté-là, on n'est pas juste gestionnaire de logement, c'est quand même ça notre valeur ajoutée, c'est qu'on travaille aussi sur toute la question de la mixité sociale, le lien social, tout ce volet-là, on travaille ça avec les jeunes, quoi.
Et alors, est-ce que cette association nationale et ses composantes locales, est-ce que vous avez un poids auprès des institutions?
Ah oui, bien sûr, le réseau national notamment a développé un plaidoyer sur différentes... projets de loi des fois, donc ils interviennent beaucoup auprès du ministère pour pouvoir faire valoir un certain nombre de... soit de projets ou d'actions qu'on porte, ou des fois des choses qu'il faut changer dans ce qui peut être proposé. Donc ça fait vraiment partie de leur rôle au niveau national, et puis même décliné au niveau régional. Notre union régionale a à peu près la même volonté, et puis nous des fois même au niveau local, sur le département on est 5 adhérents du réseau Habitat Jeune. On travaille beaucoup aussi avec toutes les collectivités, les EPCI, l'État, enfin tous ceux qui sont en charge des des politiques publiques ou de les mettre en œuvre, eh bien on travaille à leur côté pour des fois mettre en œuvre des projets dédiés aux jeunes de 16 à 30 ans sur la question notamment de l'habitat et de l'autonomie, quoi.
D'ailleurs, il se trouve même que vous êtes personne qualifiée au CROUS.
Oui. Cette année, j'ai eu l'honneur de rentrer en effet au conseil d'administration du CROUS, avec mon premier CA qui s'est déroulé en juillet dernier. Une très chouette expérience, des échanges riches, constructifs. C'était vraiment très intéressant. Et on a pu parler logement, on a pu parler restauration. D'ailleurs, ça a été tous les sujets qu'on a pu aborder lors de CA. Et j'espère pouvoir contribuer à faire en sorte que les choses avancent aussi pour les jeunes étudiants.
Donc là, justement, on est dans la résidence qui se trouve rue Palissy, rue Bernard Palissy à Tours. Alors, avant de s'intéresser quand même à l'événement phare de cette semaine, c'est la réouverture du restaurant qui maintenant s'appelle Chez Monsieur Henri. Peut-être un mot sur la citoyenneté, parce que vous expliquiez que une des ambitions de votre réseau, c'est de développer la citoyenneté chez les jeunes. Donc concrètement, sur la résidence de Tours, qu'est-ce qui est mis en place dans cette veine-là ?
On a un certain nombre de... déjà, on a beaucoup œuvré là sur la question des élections, par exemple. Évidemment, on travaille beaucoup avec les jeunes sur ces sujets-là. À chaque fois qu'il y a des échéances électorales, globalement, on essaye de travailler avec eux sur qu'est-ce que ça veut dire de voter, de comprendre aussi comment les partis, leur histoire, comment ça vit, sans donner aucune directive. C'est très important pour nous de garder, évidemment, l'objectivité politique. Ça, notre rôle n'est pas de faire du prosélytisme ou bien évidemment, mais par contre, encore une fois, d'éclairer leurs décisions, de pouvoir faire en sorte que s'ils votent ou s'ils ne votent pas, ils soient informés des conséquences que ça a. Pour nous, c'est absolument majeur, donc on travaille sur tous ces sujets-là. On a aussi un partenariat important avec la Fabrique d'Images Citoyennes. C'est vrai que ça a été un très gros projet aussi qu'on a eu cette année, où on travaille donc avec l'association Procité. Et en fait, on héberge maintenant la Fabrique d'Images Citoyennes, qui est le premier pôle d'éducation médias d'Indre-et-Loire. On travaille notamment avec Pépion Touvdi. Et donc là, il y a en fait un studio télé, Wanted TV, trouve sa place dans nos locaux. Donc on met à disposition une salle pour accueillir ce studio et toute la Fabrique d'Images Citoyennes. Et évidemment, il y a une collaboration très très étroite qui est en train de se faire avec les jeunes que nous pouvons accueillir et puis toutes les compétences qu'ont les salariés et les bénévoles qui travaillent au niveau de la Fabrique d'Images Citoyennes. On a un gros projet photo, par exemple, pour mettre en valeur les parcours des jeunes. Voilà, on travaille avec eux là-dessus. Et puis, vous parliez de citoyenneté. Nous, on donne une place aux jeunes aussi dans l'association. Et c'est pas juste écrit dans nos statuts, c'est qu'on met en action. Par exemple, on a des obligations réglementaires qui sont le fait de mettre en place un conseil de vie sociale. Mais les jeunes, ils ont une vraie place en fait dans ce conseil de vie sociale pour pouvoir à un moment proposer des choses, mettre en place un projet. On les accompagne en fait dans la mise en œuvre du projet. Et puis, on a 4 places dans notre conseil d'administration dédiées aux jeunes. C'est ambitieux, c'est pas simple parce que les conseils d'administration faut quand même réussir à c'est pas toujours super fun quand on est sur l'élaboration budgétaire par exemple, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est intéressant et nécessaire, mais pour les jeunes ça peut être un peu compliqué quand même. Donc on essaie aussi de mettre en place des actions un peu tutorat pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas juste sur une chaise et qu'on puisse se donner bonne conscience, c'est qu'ils aient une vraie place dans le processus décisionnel de l'association. Et ça aussi, ça participe à la citoyenneté évidemment.
Alors, question idiote, est-ce que vous pourriez proposer aussi, ou est-ce que vous proposez déjà des accompagnements sur faire un dossier pour la CAF, remplir une déclaration d'impôt ? Parce que ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout au lycée, par exemple, que ce soit général ou technologique. Oui.
Ça fait partie vraiment du quotidien, j'ai envie de dire, des personnes qui sont en charge, qui sont un peu les personnes ressources des jeunes qu'on a dans nos résidences ou dans tous nos dispositifs de manière générale. Parce qu'en effet, on n'apprend pas ça au lycée. Et quand les parents n'ont pas forcément non plus cette connaissance-là, c'est pas si facile. Eh bien, il faut qu'il y ait des assos qui soient en capacité de pouvoir accompagner les jeunes et surtout de ne pas faire à leur place. C'est ça qui est important pour nous, c'est de leur faire voir comment on fait pour qu'ensuite ils y arrivent tout seuls. Donc on travaille bien sûr sur la déclaration d'impôt, mais c'est majeur en plus, parce que l'accès au logement, par exemple, sans la déclaration d'impôt, c'est quasi impossible. Donc il y a tout ce travail-là, bien sûr la simulation CAF, mais on va travailler sur les notions budgétaires aussi, et puis sur des choses plus personnelles. Nous, tous les jeunes que nous accueillons au sein de notre association, je le disais, ont une personne ressource au sein de l'asso, soit une personne ressource qui est très très présente quand on est sur des dispositifs un peu plus accompagnés, soit quelqu'un qui est vraiment là quand ils ont besoin de nous, plutôt dans nos résidences pour le coup. Et son rôle, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute, un jeune qui se sentirait pas très bien, on sait que c'est pas facile des fois d'arriver dans un nouveau territoire, certains peuvent être aussi en rupture familiale, comment nous on est attentifs Et à l'écoute de ce qui peut être exprimé ou pas des fois, et comment on est le relais auprès des partenaires qui sont eux compétents sur un certain nombre de domaines sur lesquels qu'on n'a pas nous forcément en termes de compétences. Je pense notamment aux questions de santé mentale qui sont quand même un peu en recrudescence chez les jeunes. Et on travaille avec des partenaires importants sur ces sujets. Je pense à l'espace santé jeune, mais aussi d'autres structures. Et donc là, notre rôle, nous, c'est de vraiment être en repérage, j'ai envie de dire, et de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours et de mettre autour du jeune tout ce qui va le sécuriser. C'est notre approche, elle est vraiment là-dedans, dans la bienveillance, dans l'écoute, être attentif et le guider à peu près où il faut, tout en entendant aussi ses besoins. Il faut trouver le bon équilibre et ce qu'il a envie de faire lui. Donc c'est le bon dosage à trouver.
Et alors ce parcours qui est, disons, qui a un accompagnement particulier, est-ce qu'il a un nom? Est-ce que c'est un dispositif sur lequel les jeunes sont conseillés, orientés? Comment ça marche?
Alors sur nos résidences classiques, j'ai envie de dire, on a des résidences quand même qui sont réparties sur le territoire plutôt métropolitain, mais on a quelques-unes à Tours, La Riche, Jouy-les-Tours, mais on va jusqu'à Montbazon, Langeais, Mont-Louis. Donc là, on est vraiment sur des petites, une grosse résidence ici, on va y revenir, mais autrement, on est sur des résidences entre 6 et une vingtaine de logements à peu près. Donc là, une personne ressource, on parle de veille sociale, mais c'est dans notre jargon, peu importe, c'est une personne auquel le jeune peut se référer. Et puis ensuite, on a des dispositifs beaucoup plus particuliers, mais qui sont plutôt sur de la prescription, avec un passage en commission extérieure. Je pense à des dispositifs comme Autonomie Soi, par exemple, qui est un dispositif piloté par le département et financé par le département, l'État, la ville de Tours, qui interviennent aussi dessus. Là, il y a une commission très spécifique. On n'y rentre pas comme ça, j'ai envie de dire. On gère aussi un service d'hébergement d'urgence pour les jeunes, donc là les jeunes qui sont à la rue et qui font le 115, donc là on est sur la prescription 115 avec un accompagnement très 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 renforcé. Voilà, en fait nous notre rôle c'est de nous adresser à l'ensemble des jeunes et d'essayer de trouver des réponses adaptées pour chacun d'entre eux en tenant compte de leurs besoins. Donc il y a des jeunes qui n'ont absolument pas besoin d'être beaucoup accompagnés et tant mieux, et c'est très bien, les parents sont encore présents ou peu importe, ils ont déjà pris plus ou moins leur envol. Et on a des logements et des personnes au sein de l'association qui sont tout à fait en capacité de correspondre à ces besoins-là. Et puis on a des jeunes qui ont des parcours beaucoup plus chaotiques, avec des parcours des fois de traumatismes extrêmement forts. C'est pas tout à fait la même chose et on doit nous avoir une agilité dans notre accompagnement pour pouvoir faire ce qu'il faut en temps et en heure.
Alors comment on fait pour que ça fonctionne, disons, parce qu'ils sont voisins, ces jeunes, ils habitent au même endroit, donc comment on fait pour que tout le monde soit chez soi, ensemble?
Sur une résidence comme ici, par exemple, là on a 110 logements, là où on se trouve, donc c'est un gros collectif, mais on a des espaces justement collectifs, et là c'est notre rôle, là on a une équipe d'animation, on est aussi issus des mouvements d'éducation populaire, donc il y a des choses un peu qu'on a dans notre ADN, on a une équipe d'animation dont le rôle c'est justement de faire en sorte que les jeunes se sentent comme chez eux, et en même temps ils ont leur logement individuel, mais ça très bien, et puis il y a ces espaces collectifs qui permettent la rencontre. On travaille aussi avec des partenaires, alors soit sur des choses plus ludiques, soit sur des choses plus éducatives, ça dépend, mais on travaille des fois sur des choses tout à fait sympas, juste on se fait un atelier cuisine ensemble et puis on produit à pas cher, on essaie de voir comment on peut à petit budget faire un plat un peu sympa, et puis on peut aussi être sur des choses en effet un peu plus éducatives, je le disais, avec le planning familial par exemple, qui peut venir sur tout ce qui est la précarité menstruelle, sur le volet rapport homme-fille aussi, où des fois les choses peuvent être un peu compliquées. Il y a des choses en tout cas à travailler là-dessus, donc ça on est beaucoup là-dessus également. Et puis on va avoir, je pense à l'hôtel de l'alternance, c'est une autre résidence que nous portons, qui est dédiée justement sur des publics en alternance plutôt étudiant là pour le coup, et on travaille par exemple avec la compagnie La Clé la préparation aux examens. On sait que c'est des moments un peu compliqués des fois d'angoisse, et on va pouvoir travailler avec eux sur ces sujets là donc c'est ça en fait qui crée le lien, c'est de pouvoir à un moment mettre tout le monde autour d'une thématique particulière et puis d'en créer un moment sympa, chaleureux, convivial, un petit voilà, un petit verre à boire sans alcool, bien évidemment, mais qui permet voilà, un peu de convivialité. Et puis voilà, les animatrices et animateurs sont rodés à tout ça, donc ils savent comment faire en sorte que le collectif se crée. Mais c'est une ambition de tous les jours, hein, parce que on est quand même dans une société qui est assez individualiste, tout le monde le dit. Et en même temps, il y a plein d'engagements de la part des jeunes. Hein. On dit que la jeunesse est devenue, voilà, en effet très auto-centrée. C'est pas vrai, ils s'engagent différemment. Et puis il faut créer les conditions de la rencontre. C'est ça qui est hyper important, mais c'est quand même un défi de tous les jours. Faut réussir à faire en sorte qu'on recrée tout ça, en effet.
Radio Campus Tour.
Là, on est dans le nouveau restaurant chez Monsieur Henri. Donc, on est dans la salle qui a été refaite à neuf, là où, ouais, où les gens pourront venir manger. Nous sommes même sur un très beau canapé rouge, hein, on tient à vous le signaler, des beaux fauteuils assortis. Alors là, pour en venir à ce restaurant qui a été intégralement rénové, donc pour ceux qui connaissaient l'ancien fini, les grandes tables en plastique blanc, là ça a été tout refait à neuf. Alors qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur ce nouvel espace avec ce mobilier, comme on dit, surcyclé, je crois.
Oui, voilà. Bon, en fait, on a travaillé, alors, notamment sur le mobilier de la salle, on a travaillé avec un programme de l'association Valaisance qui s'appelle Habiter sur cyclé, en effet, dont l'objectif c'est de pouvoir récupérer soit en déchetterie, soit via des donateurs, du mobilier qui est destiné à être jeté, et de pouvoir lui donner une seconde vie. Et on parle de surcyclage parce qu'en fait c'est du recyclage par le haut, puisque c'est fait par des designers, soit professionnels, soit des étudiants designers. Il y a aussi du public en insertion qui travaille sur l'ensemble de ce mobilier pour lui redonner finalement une seconde vie et en faire du mobilier un peu sympa. Donc c'est ce qu'on a choisi, nous, ça fait partie de nos valeurs, hein, travailler sur au maximum la question du développement durable. C'est vrai que voilà, de pouvoir à un moment retrouver et redonner une seconde vie à du mobilier comme ça et s'en servir pour donner vraiment une patte particulière, hein, du coup ça devient un lieu unique finalement, hein, puisque tout est fait sur mesure, hein, enfin il n'y a aucun autre endroit dans le monde qui a ces meubles-là. On en fait un coin très sympa.
Donc là, il y a des coloris, on va dire rouge, vert. Enfin, ouais. Il y a tout un choix. Donc c'est joli, hein, je précise aux auditeurs quand même qui pourraient s'étonner de mobilier récupéré. Donc c'est vraiment beau esthétiquement. Ça donne envie de venir. Il y a un côté chaleureux. Et comment vous avez associé les équipes qui travaillent au quotidien dans ce restaurant? Parce que là, on est du côté de la salle où on vient s'installer pour manger. Mais il y a tout le côté service aussi, ouais, qui a été refait.
C'est ça. Ah bah les équipes, elles ont été associées depuis le début, en fait. Faut savoir que la rénovation, on va dire, du restaurant, c'est un projet qui a plus de 3 ans maintenant, hein. On a commencé par une étude de marché parce qu'il fallait voilà qu'on travaille aussi sur ces sujets. On a évidemment été accompagné sur le côté identité. On a travaillé donc avec RCP Design Global pour toute l'identité du restaurant et donc il fallait évidemment associer les équipes. C'était hyper important et on a été jusqu'au fait finalement de créer une coopérative, c'est-à-dire que maintenant le restaurant est à sa propre entité juridique, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et dans cette SIC il y a un collège dédié aux salariés. Donc nous avons quelques salariés qui ont pris finalement presque des parts dans la coopérative, donc ça c'est quand même super intéressant. Et puis bien sûr, on a travaillé avec les équipes sur la conception du lieu, je pense notamment aux équipes d'entretien. L'idée c'était de faire en sorte que ça soit aussi simple pour les équipes de pouvoir nettoyer un lieu. Il faut savoir que cette salle-là fait 400 mètres carrés par exemple, hein, la salle de restauration, donc il faut quand même que ça soit un peu simple. Avant on avait des tables qui étaient hyper lourdes, c'était très très compliqué pour la manutention et du coup il fallait réfléchir à tout ça. Donc par exemple le salon dans lequel que vous avez décrit juste avant, le fameux salon rouge, vous voyez, on a demandé à Habiter Surcyclé de le mettre sur roulette parce qu'autrement c'est indéplaçable, et ce qui permet au personnel d'entretien de pouvoir le déplacer comme elle le souhaite pour pouvoir entretenir le sol. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on a discuté avec l'équipe pour savoir c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leurs contraintes, comment on pouvait faire en sorte de les aider dans leur quotidien de travail. Là je pense aussi à tout cet espace là qui est plutôt un espace séminaire éventuellement dédié un peu aux entreprises qui ont envie d'avoir un endroit un petit peu plus à eux. Là on a fait quelque chose de plus normé que sur le reste de l'espace restauration pour permettre aussi une méditation plus simple. Les tables, les chaises s'empilent par exemple. Et on peut moduler complètement cet espace pour en faire un peu ce qu'on veut, ce qui est un petit peu moins le cas sur le reste de l'espace restauration, puisque là, en effet, on a du mobilier très, très hétéroclite.
Alors, qui peut venir manger ici ?
Tout le monde. Je ne peux pas, je peux pas dire mieux. Et on a envie que tout le monde vienne, en fait, parce que ça fait partie de notre projet. C'est toute la, je le disais même de toute façon pour l'association tout à l'heure, mais c'est très emprunt aussi dans notre restaurant. C'est qu'on attache beaucoup d'importance à la mixité sociale. C'était déjà le cas, en fait. J'ai envie de dire, dans ce restaurant, tout a changé et rien n'a changé. Notre état d'esprit, lui, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on voulait en faire un lieu chaleureux, de rassemblement, convivial, etc., où tout le monde peut se retrouver. Et ça, voilà, c'est finalement le lieu et la manière dont on a travaillé sur l'identité, c'était pour renforcer ça. C'était vraiment lui redonner la chaleur qui pouvait manquer un petit peu dans le lieu historique. Et donc là, voilà, tout le monde peut venir, en effet, faire sa pause méridienne, mais ça peut être donc pour des salariés, mais aussi les retraités du quartier. Hein. On a d'ailleurs quelques retraités qui viennent déjeuner le midi. Ça peut être les scolaires qui sont à côté, puisqu'on a développé, en plus de la vente à emporter, mais on y reviendra peut-être après. Donc voilà, encore une fois, la mixité sociale, c'est pour nous très important. On a beaucoup de gens de la préfecture qui viennent déjeuner le midi. On a pu avoir déjà la présidente du conseil départemental qui vient faire un saut. Enfin voilà, on a des gens sous tutelle. c'est ça qui est super intéressant, en fait, dans ce lieu.
Plus vos résidents.
Bien sûr, ouais, les résidents le midi, alors ils sont un petit peu moins nombreux, évidemment, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des activités pour certains d'entre eux, et que le midi, mais on a généralement allez, une 15 à 20 jeunes qui sont présents le midi de la résidence là, Henri Fontaine, puisqu'on est sur ce site, et voilà, une quinzaine d'entre eux à peu près, ouais, vient déjeuner le midi.
Alors là, on n'en sait plus sur les contraintes de travail de l'équipe d'entretien. Est-ce qu'il y a eu des demandes aussi par l'équipe cuisine ?
Ah bah l'équipe cuisine, en fait, on a refait toute la ligne de self. Donc là, autant vous dire qu'ils sont hyper heureux, parce qu'on avait une ligne de self un peu... Ah voilà, bah ça arrivait un petit peu au bout tout ça. Donc il fallait retravailler.
Vintage.
Ouais, c'était vintage, c'est ça. Donc là, ils ont des nouvelles plaques à induction, ils ont des nouvelles friteuses, ils ont des lampes chauffantes, des nouvelles vitrines. Alors j'ai pas le terme technique, je suis désolée, moi pour le coup, je suis moins à l'aise, mais on a une rampe réfrigérée où on peut mettre toutes nos entrées. Avant, on était là avec les sacs de glaçons, vous savez, pour pouvoir maintenir au frais. Bon, bah c'était d'une pas super écolo. Et puis voilà, mais il fallait passer à autre chose. Donc tout ça, pour l'équipe cuisinante, c'est que du plus, en fait. Hein. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis le lieu, la ligne de self en tant que telle est vraiment chouette. On a voulu donner un côté très doux, très apaisé, hein, encore une fois, pour que les gens se sentent bien en venant, mais aussi le personnel. C'était important pour nous. Et donc l'équipe cuisinante a eu le droit, elle aussi, à ses petits cadeaux avec la rénovation du restaurant.
Et alors, il y a des nouveautés aussi dans la proposition qui est faite.
Oui.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Et comment vous les avez repérées, en fait, ces attendus ? Est-ce que ça venait des retours de l'équipe de cuisine ? Est-ce que ça venait du retour des personnes qui viennent au restaurant ? Les deux, peut-être ?
La grande évolution, c'est qu'on a créé une zone de vente à emporter, en effet, au sein de ce restaurant. Donc, il se situe maintenant directement sur la rue, hein, à l'entrée du restaurant chez Monsieur Henri. C'était très important, en effet, qu'on diversifie un peu notre offre. En fait, il faut savoir que depuis plusieurs années, notre restauration, elle était un peu en... avec un nombre de convives quand même qui se réduisait parce que on a eu du mal à absorber l'après-Covid, hein, faut être clair. où on était, j'ai envie de dire, avant le Covid à 350 convives par jour, on est descendu à 250 et puis on n'a jamais vraiment réussi à remonter les choses. Donc en fait, on avait une offre qui était quand même très monotypée avec le self. Ça c'est très bien, mais on savait qu'il y avait des besoins aussi sur de la vente à emporter. Les gens sur la pause méridienne, ils ont évolué avec le Covid, beaucoup de gens qui viennent avec leur petit panier, qui restent au bureau, etc. et qui n'ont pas forcément envie de s'installer à nouveau dans un restaurant. Donc il fallait qu'on puisse avoir en fait les deux possibilités. Donc ils ont le choix, soit venir en effet dans le lieu hyper chaleureux de la salle et de pouvoir se poser un peu pour déjeuner tranquillement avec des collègues ou peu importe avec des amis. Et puis voilà, pour ceux qui sont un peu plus pressés mais qui ont envie quand même de manger bien et correctement, eh bien là, il y a la vente à emporter, puisque la vente à emporter, c'est tout ce qui est produit au restaurant et reconditionné pour permettre de la vente à emporter. Donc on est, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important, on est sur un collectif relativement fort, en effet, quand je disais voilà, 250 à 300 personnes par jour, on se dit, wow, oh là là, c'est un peu l'usine. Bah, on n'a que des cuisinants en fait, qui font vraiment, vraiment de la cuisine en coulisses. Voilà, les carottes, elles arrivent avec la peau dessus, voilà, on les taille nous-mêmes, on est au maximum avec des produits frais, les circuits courts, on travaille avec des producteurs locaux. Enfin voilà, on est sur du fait maison. C'est pas de l'industriel en fait quand vous venez chez nous, et donc la vente à emporter, c'est exactement la même chose. Voilà sur la vente à emporter, et puis sur plutôt l'offre restaurant, on va dire, là ce qu'on a développé, c'est un pôle grillade. Voilà, ça, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. On avait déjà une offre grillade, mais qui n'était pas forcément tous les jours. Là, tous les jours, les gens peuvent venir manger une grillade chez nous. On a toujours le burger, ça je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient qu'on n'ait plus le burger. Alors maintenant, en plus, c'est d'autant mieux, parce qu'avant, il n'était que le jeudi midi, mais maintenant, vous le retrouvez le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà, avec bien sûr des préparations différentes. Donc voilà, je peux rassurer vos auditeurs, si jamais ils connaissaient le burger du jeudi, il est toujours là. Et puis on a développé une offre végétarienne aussi. Bon, bah ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire une grosse étude pour savoir que c'est une alternative qui est très importante à développer maintenant. Et on n'est pas juste sur l'assiette de haricots verts, hein. On est vraiment sur du plat végétarien. L'équipe a été formée pour produire du vrai végétarien. Donc voilà, c'est des choses qui ont évolué beaucoup dans notre offre.
Et alors, dans quelle mesure la chef, puisque ici c'est une chef, peut dire, moi j'aimerais travailler tel produit, est-ce qu'elle peut faire des demandes, est-ce que c'est elle qui décide qu'elle met dans ses menus?
Ah bah bien sûr, Laetitia, donc elle s'appelle Laetitia Tenon, c'est une jeune chef, hein, puisqu'elle a même pas 30 ans, voilà, ça a été un sacré gros défi pour elle aussi, de toute la rénovation de ce restaurant, elle s'est impliquée corps et âme, comme un peu nous tous, et donc elle a évidemment, c'est elle qui élabore ses menus. Moi par exemple, j'interviens pas du tout sur l'affaire, alors on peut en discuter, hein, on en discute des fois de temps à autre, mais c'est elle qui élabore ses menus, qui fait ses commandes, qui voit l'approvisionnement, qui drive ses équipes. Enfin, voilà, elle a une autonomie quasi complète sur ces sujets-là, bien sûr. C'est quelqu'un qui est assez solaire, donc elle est à l'image de ce lieu, en fait, avec un sourire toujours constant et voilà, une envie d'accueillir les convives dans la bonne humeur et la joie. Et elle laisse transpirer ça auprès de ses équipes et voilà, c'est quelqu'un qui est super chouette.
Peut-être une inquiétude parmi nos auditeurs non étudiants. Est-ce qu'on peut manger avec des tickets resto ici?
Oui, on peut manger avec des tickets resto. Oui, tout à fait. Et c'est important en effet que vous parliez peut-être du volet tarification, parce que je le disais, c'est bien de faire un lieu convivial, chaleureux. On parle de mixité sociale, mais il faut que les tarifs suivent derrière, parce qu'autrement ça marche pas. Et donc nous, on avait à cœur, malgré la situation économique qui est pas forcément simple, de conserver une tarification qui puisse permettre au plus grand nombre de venir déjeuner. Et le plus grand nombre, c'est aussi, en effet, les étudiants, les apprentis, les apprenants de manière générale. Donc, par exemple, ici, chez Monsieur Henri, vous avez un menu du jour à 10 euros. Quand je dis un menu du jour, c'est entrée, plat, dessert. Je pense que c'est à peu près imbattable sur la place de Tours. 10 euros, où vous venez manger dans un lieu sympa et vous retrouvez la même chose en vente à emporter. Après, voilà, quelqu'un qui a envie de se faire un peu plus plaisir, il paye plus cher. Il a envie de se manger une bonne pièce de bœuf. Alors, on n'est pas trop dans le truc écolo, mais on en vend aussi du bœuf, parce que quand même, malgré tout, ça plaît à un certain nombre de convives. Il paiera un peu plus cher et sa pièce de bœuf avec sa garniture, il sera à 13,20 €. Mais voilà, nous, l'intérêt, c'était justement d'avoir cette mixité, et ça passe aussi par le prix et les tarifs. Et donc, une offre avec le menu à 10 euros, pour nous, c'était essentiel. Et puis pour les jeunes, on a souhaité aussi pouvoir faire quelque chose de particulier sur la vente à emporter. Donc il y a une offre spécifique pour les moins de 30 ans en plus, hein, moins de 30 ans. Là, nous c'est très important, je vous le disais, on s'adresse à tous les jeunes. Donc on n'est pas forcément sous public ou étudiant ou scolaire ou peu importe. Vous avez moins de 30 ans, et bien vous avez accès à une formule à 8 euros avec une pasta box, faite maison bien sûr, hein, une bonne pasta box en quantité, une boisson et un fruit. Pour 8 euros, donc voilà. Et puis après, vous pouvez avoir des plats à l'unité, bien sûr, ça c'est encore différent. Et puis sur la vente à emporter aussi, peut-être préciser qu'on est sur une ouverture continue, c'est-à-dire qu'on ouvre à 7h45, on ferme à 17h30, donc quelqu'un qui a envie de se prendre un petit déjeuner en passant, il peut, hein, globalement une viennoiserie, une boisson chaude, c'est 3 euros. Vous rajoutez le jus de fruits, on est à 4,50€ à peu près. Et si l'après-midi, il a envie de se prendre une petite crêpe ou une gaufre, et ben, il peut s'arrêter aussi parce que c'est ce qu'on propose l'après-midi avec là aussi que du fait maison. Voilà. Là, la vente à emporter, même pour le petit-déj, vous pouvez avoir un muffin, par exemple, qui est fait maison. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même sur un lieu qui est quand même assez important. C'est quand même un beau défi de réussir à faire du produit frais et pas trop cher.
Et alors, est-ce que vous êtes repéré par l'Office du tourisme, par exemple ?
Bah oui, on travaille pas mal avec l'Office du tourisme. D'ailleurs, j'avais quelqu'un qui est venu pour la réouverture hier, qui est venu déjeuner ici. J'ai discuté un petit peu avec elle à l'accueil. Donc oui, l'Office du tourisme, bien sûr, peut nous orienter des gens parce que c'est vrai que quand il y a des manifestations particulières à Tours, j'ai envie de dire, on a de la capacité pour pouvoir accueillir, évidemment. Et puis, on fait aussi des prestations particulières, c'est-à-dire que le restaurant peut être privatisé. Donc on travaille aussi beaucoup avec certaines entreprises. Là, par exemple, nous, on va accueillir le Marathon de Tours. Pardon. Le Marathon de Tours prochainement. Donc, c'est quand même des très grosses prestations, hein, là, pour le coup. Donc, on ouvre le week-end, hein, parce que d'habitude, on n'est pas ouvert le week-end. Mais sur des événements particuliers, on réouvre le week-end. Et puis, on va gérer, on va travailler avec le concepteur du projet en amont pour lui proposer une offre particulière. Voilà, on peut être aussi sur un accueil café un matin avec une réunion qui est organisée soit au restaurant, soit dans une salle que l'on peut proposer aussi à la location. On organise des cocktails dînatoires. Enfin voilà, donc on est aussi pas mal sollicité sur ce genre de choses, mais il ne faut pas hésiter à continuer. Là aussi, on a des prix plutôt intéressants et là aussi du fait maison, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des projets auxquels vous pourriez dire non, par exemple un congrès politique ou un mariage ?
Alors pour l'instant, en effet, sur des événements très privés de ce type, on a déjà eu la demande pour un anniversaire ou un mariage, c'est déjà arrivé. C'est des choses qu'on a déclinées jusqu'à présent parce que c'était pas complètement dans ce qu'on pouvait proposer. Alors politique, ça c'est déjà arrivé. On a déjà accueilli des partis politiques qui ont pu faire une manifestation dans une de nos salles par exemple et puis avoir une prestation de restauration. Ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc on est plutôt assez ouvert. Après sur des prestations vraiment très privées pour des particuliers, on n'en est pas encore là.
Et si d'aventure il y a des restes, disons en fin de journée, est-ce que vous les donnez ? Comment ça se passe que vous êtes en lien avec des associations ?
Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment vraiment développer. C'est Too Good To Go. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles en effet on veut travailler. Bon, entre nous, on essaye vraiment, Laetitia, hein, justement, elle est très très attentive à essayer de calibrer au mieux. Donc nous, notre rôle, c'est déjà qu'il n'y ait pas, en fait, de choses qui soient jetées. C'est quand même ça, le bon calibrage, c'est déjà ça la base. Mais on aimerait bien, si jamais, en effet, on a des choses qui peuvent rester, de pouvoir travailler sur ce genre de dispositif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir là dans les mois qui viennent. Et puis d'ores et déjà, le soir, on a une restauration un petit peu particulière hein, parce que c'est fermé le soir, à l'ensemble des personnes. Mais le soir, on travaille avec l'entraide et solidarité et puis notamment la Croix-Rouge pour accueillir une cinquantaine de personnes qui sont en précarité alimentaire plus. Et donc, nous, on produit pas le côté alimentation, mais on met à disposition la salle et puis il y a un passage symbolique en caisse et puis on fait tout le service. Et on a une cinquantaine de personnes qui sont soit à la rue, soit dans des conditions extrêmement précaires, qui viennent ici pour pouvoir dîner et être dans un vrai restaurant, dans un lieu où ils se sentent accueillis, ils peuvent se sentir bien. Et donc nous, c'est des choses comme ça, alors qui ne sont pas forcément communiquées, hein, c'est des choses qu'on fait qui sont dans nos valeurs de manière générale. Et ça, c'est ce qu'on peut faire le soir du lundi au vendredi également.
Radio Campus Tours, 99.5 FM.
Comment on devient directrice d'un tel lieu ?
Moi-même, je ne le sais pas. écoutez, moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans l'association. J'ai pas démarré comme directrice générale. Je le suis maintenant depuis 3 ans. Je suis plutôt une femme de projet. Donc, c'est vrai que j'aime bien quand on réfléchit sur des choses à ce que ça soit mis en œuvre et que ça se transforme en réalité. Donc, après, je suis pas seule. Hein. Il y a plein d'équipes autour de moi qui ont cette même ambition de faire en sorte que et l'association et le restaurant soient dans cette dynamique tout le temps constructive pour le territoire aussi, c'est pour nous très important. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est un gros collectif sur tous ces sujets en tout cas.
En fait, ça fait 15 ans que vous travaillez dans une telle structure, ça demande sûrement une fibre particulière, en tout cas un intérêt particulier pour certaines thématiques.
Il y a évidemment un engagement fort. Moi, le public jeune, c'est un public qui m'a toujours attirée depuis très longtemps. Et quand j'ai pu en effet postuler à Jeunesse Habitat pour y rentrer, il y a une espèce de, je pense, de coup de foudre. C'est vrai, vraiment, j'ai une attache très très forte à cette association et à ce qu'elle produit, à ses équipes, aux jeunes qu'elle accompagne. Je suis très très fière de ce qu'on y fait. Et donc, dans ces cas-là, on compte pas ni son temps, ni son énergie. C'est un moteur énorme, évidemment.
Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers votre collègue qui travaille sur la communication.
Oui. Bonjour, je m'appelle Céline Agaché. Je suis la chargée de communication de l'association depuis un peu plus d'un mois maintenant. Je travaille à la fois au sein de l'association et au sein du restaurant. Donc, pour l'instant, plutôt sur le restaurant parce qu'il y a le contexte de réouverture, et vous pouvez retrouver le restaurant sur Facebook et Instagram, donc sous son nom, chez Monsieur Henri, et on a partagé notamment des petites photos et vidéos hier en story toute la journée pour parler de notre réouverture.
Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur cette réouverture, c'était Place to Be?
Alors hier, en fait, à partir de 11h45, on a commencé à accueillir le public et on distribuait des petits ballons pour que chacun se sente ambassadeur chez Monsieur Henri et puisse le donner après à leurs collègues ou à des personnes qui croisaient dans la rue. Et on avait aussi préparé des tickets à gratter, des petits jeux pour après, donc les gagnants pouvaient recevoir un menu du jour, un dessert offert et ce genre de choses. Et donc moi, j'ai discuté un peu après avec les personnes qui partaient pour connaître leur avis, savoir ce qu'elles pensaient du nouveau restaurant. Et on a eu pas mal de retours positifs, à la fois sur la décoration, mais aussi sur le fait de... ils étaient contents de revenir et de retrouver aussi l'équipe toujours aussi souriante et toujours aussi accueillante.
Une dernière question pour vous, peut-être allez-vous pouvoir lever le mystère sur qui est Monsieur Henri?
Alors, le nom est en fait... Le nom est un hommage à Henri Fontaine, qui était le fondateur de l'association Jeunesse et Habitat, et qui a aussi fondé les cinémas des studios à Tours. Et en fait, c'est une figure de la ville de Tours, notamment sur l'aspect social et surtout sur la jeunesse, puisqu'il a beaucoup dédié beaucoup de temps de sa vie à l'intégration des jeunes tourangeaux.
Merci. Alors peut-être vraiment nous rappeler c'est le nom des comptes à suivre pour connaître tout ce qui se passe ici.
Alors pour le restaurant, ça va être chez Monsieur Henri sur Instagram et Facebook. Et pour l'association, ça va être la page Facebook Association Jeunesse et Habitat. Et on est aussi sur LinkedIn sous le même nom.
Pour cette émission, je remercie l'équipe de la résidence et du restaurant Henri Fontaine pour leur accueil. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampustour.com et sur les plateformes. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible, évidemment à l'écoute de nos programmes.
ارباب خودم بزبز قندیل، ارباب خودم چرا نمیخندی؟ ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم بس به کماله؟ حاجی فیروزم بله، ساری یه روزم بله، حاجی فیروزم بله، مثل نیم سوزم بله، بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم بشکن، من نمیتونم میتونی، چجوری بشکنم؟ چطوری بشکنم اینجا بشکنم یار گله داره اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حاجی فیروزم بله سالی یه روزم بله سالی که گذشت سال بعد سالی که گذشت سال بد بود سالی بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد مردا رو اخته کرد مردا رو اخته کرد زنا رو شلخته کرد دکونا رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک در
سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
یا حق یا هو، هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو چشکول. یا حق یا هو، همه ی روزتان پیروز.